Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo, le magazine hebdomadaire de notre web radio Micro Rebelle. Magazine que vous pouvez suivre en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur notre site, depuis notre site microrebelle.fr ou avec l'appli de la Franf. Et magazine qui est également retransmis par nos amis de Radio PFM 99.9 et en DAB+, dans l'Arrajois. Chaque vendredi à 20h, chaque samedi matin à 7h30 et tous les dimanches à 14h. Merci à Radio PFM. Micro Rebelle Hebdo, c'est le magazine du bassin minier, des luttes sociales, des luttes économiques, politiques, culturelles, environnementales. Et à ce sujet, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute idée de reportage, toute idée d'échange, de dialogue, soit chez vous, soit en studio. Au programme de ce Micro Rebelle Hebdo, comme chaque semaine, notre agenda social et culturel, les actualités au travers de la presse, et puis des reportages et de la musique libre. Et on va, si vous en êtes d'accord, commencer, comme chaque semaine, par notre agenda social et culturel. Et on démarre le samedi 3 octobre par la marche des solidarités. Je devrais d'ailleurs dire les marches des solidarités, puisque ce sont des marches qui sont organisées depuis les quatre coins de la France. Et toutes ces marches ont pour objectif de converger sur les Champs-Élysées le 17 octobre 2020, donc d'ici la fin du mois. Et en fonction des distances à parcourir, ces marches sont parties depuis plus ou moins longtemps. Par exemple, la marche de Marseille est partie le 19 septembre. Et ce samedi 3 octobre, cette marche des solidarités démarre de Lille, plus exactement de la place de la Liberté à Lille à 13h. Donc on peut s'y rendre pour les encourager, pour échanger aussi avec elle et eux. Alors justement, elle et eux, qui sont-ils et qui sont-elles? Ce sont d'une manière générale des sans-papiers et des sans-emploi qui sont unis pour l'égalité et la dignité et qui réclament des papiers et des emplois pour tous. Donc ils marchent vers l'Élysée jusqu'au 17 octobre pour demander au président de la République la régularisation de tous les sans-papiers et l'embauche de tous les sans-papiers. C'est en quelque sorte une marche du prolétariat sans-papiers. Je vous en rappelle le rendez-vous pour cette marche au départ de Lille, samedi 3 octobre à 13h, place de la Liberté. Toujours le samedi 3 octobre, la parole aux adoptés. C'est une initiative de l'atelier d'histoire critique qui accueille Hélène Reinhardt, qui est diplômée de l'EHESS et docteur en histoire, et Joey Bourguin, qui est enseignante et militante antiraciste, à l'occasion d'une rencontre autour de l'adoption internationale reconsidérée du point de vue des adoptés. Alors je vous lis un petit peu la présentation de cette initiative. Le temps passant et les générations d'enfants devenant adultes, des personnes adoptées ont revendiqué un droit à la parole, à l'expression de leur vécu, et se sont rassemblées pour porter communément leur voix sur la scène publique. Des générations d'enfants adoptés sont devenues aujourd'hui des adultes capables de s'exprimer sur le sujet et sont parfois organisées en associations. Aujourd'hui, les organisations de personnes adoptées souhaitent être reconnues en tant qu'acteurs à part entière de l'adoption au sein des institutions françaises de l'adoption, composées majoritairement d'associations de familles adoptives et professionnelles de l'adoption, souvent eux-mêmes parents adoptifs. Ces associations de personnes adoptées souhaitent qu'une véritable réflexion soit possible afin d'améliorer le devenir adulte des enfants adoptés en recentrant le débat sur la personne adoptée elle-même et en la prenant comme point de départ de la réflexion. C'est donc le samedi 3 octobre à 15h à la médiathèque du Vieux-Lille. C'est 25-27 place Louise de Bétigny, donc à Lille. Vous ne pouvez pas vous déplacer pour cette initiative, Eh bien, Micro Rebelle diffusera en direct l'ensemble des échanges de l'atelier d'histoire critique et d'Hélène Reinhardt, ainsi que de Joey Bourguin et également de l'assistance. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est une initiative à laquelle on est tout à fait enchanté de participer et de contribuer. Si vous souhaitez l'écouter, ce sera en direct demain, samedi 3 octobre. Je dis demain puisque cette émission est enregistrée le vendredi soir. Samedi 3 octobre sur microrebelle.fr ou sur l'appli de la Franf. Alors le dimanche 5 octobre, marche de soutien pour les Bridgestone. Les Bridgestone hein, qui ont eu la vilaine annonce de la fermeture de leur entreprise. Et donc une marche de soutien dimanche. Le rendez-vous est à 9h30 au rond-point avenue George Washington face au dépôt Tadao. La suite de cet agenda, donc le lundi 5 octobre, on vous reparle de la marche des solidarités hein, donc qui est partie de Lille le samedi 3 octobre. Et ce lundi 5 octobre, cette marche des solidarités arrive à Grenay. Donc on peut les accueillir hein, c'est en fin d'après-midi à Grenay, devant l'hôtel de ville. Hein. Marche des solidarités, marche du prolétariat sans papier. Et le lendemain, le mardi 6 octobre, hein, c'est toujours la marche des solidarités qui arrive cette fois-ci à Arras. Donc, rendez-vous, je n'ai pas le lieu, mais c'est le samedi soir, le mardi 6 octobre, pardon, en soirée, accueil de la marche des solidarités à Arras. On va terminer cet agenda par les aspects culturels en vous présentant deux films. Le premier film, Un pays qui se tient sage. C'est un film documentaire que vous pouvez voir au Mégarama à Arras et au cinéma Les Étoiles de Bruy-la-Bussière toute la semaine prochaine, toute la semaine qui vient. La critique de La Voix du Nord sur ce film. Voilà une classe qui se tient sage. La phrase est prononcée par un policier, fin 2018, devant des lycéens, main sur la tête et genoux dans la boue d'un terrain vague. Journaliste indépendant à l'esprit punk, ex-rédacteur en chef d'une chaîne info continue, lanceur d'alerte, David Dufresne la détourne et en fait le titre de son film « Un pays qui se tient sage ». L'objectif ? Démontrer que c'est le pays entier que l'État tente, par la force, de mettre en position de sujétion, de soumission. Au premier chef, ceux qui bravent ses décisions ou ses institutions. Les images abondent pour documenter la répression qui s'exerce sur les manifestants, qu'ils soient adolescents de Mantes-la-Jolie ou gilets jaunes de toute la France. La plupart sont connus, ont circulé, sinon dans les médias dominants, du moins sur les réseaux sociaux. Elles ont la puissance du témoignage et de l'incontestable. Arbitraire, brutalité, disproportionnalité, c'est « arrête, arrête, arrête » lancé à celui qui frappe et qui n'arrête pas, nous mettent mal à l'aise et les larmes aux yeux. Le film, poursuit La Voix du Nord, n'est cependant pas une collection de vidéos sanglantes et de preuves à charge contre les violences policières. Il s'agit ici et avant tout de partir d'une réalité que certains relativisent, certes, et de l'analyser. Qu'est-ce qui est légal ? Qu'est-ce qui est légitime ? Quel État protège les forces de l'ordre ? Quel est le contrat social ? Quelle est la place de la police dans la démocratie ? À ces questions, grâce à un dispositif à la fois frontal, devant la caméra, et binaire, par pair, répondent historiens, journalistes, écrivains, victimes, policiers, identifiés seulement au générique. On en retient des phrases et pistes de réflexion, dont celle-ci de la juriste Monier Chevrier-Gendreau, « La démocratie, c'est le dissensus, pas le consensus. » Le film de David Dufresne faisant fondamentalement dissensus, il est indispensable à la démocratie. Fin de citation de cette critique de La Voix du Nord. Je vous propose d'ailleurs d'avoir une interview du réalisateur David Dufresne. C'est cette semaine dans Politis. Autre annonce culturelle et autre film, Joseph. C'est un film d'animation au Mégarama Arras et également au cinéma Les Étoiles de Bruy-la-Bussière. La critique de Politis. Dans Joseph, Aurel fait revivre la figure de Joseph Bartoli, républicain espagnol et dessinateur, qui, comme nombre de ses compatriotes, a été parqué dans des camps en France en 1939. Un premier long métrage dessiné qui est un coup de maître. En 1939, près de 500 000 républicains espagnols ont fui la répression féroce exercée par Franco et se sont réfugiés en France, le pays des droits de l'homme, les parquant dans des camps de concentration où ils ont subi moult mauvais traitements, faim, maladies non soignées, viol. Parmi eux, Joseph Bartoli, militant politique et dessinateur, qui a laissé de la vie quotidienne dans ces camps abjects un témoignage puissant mais méconnu de ce côté-ci des Pyrénées. Impressionné par cette œuvre qu'il l'a découverte, Aurel, notre dessinateur de presse préféré, c'est le journal Politis qui parle, collaborateur de Politis depuis de longues années, a choisi d'en faire le héros de son premier long métrage. Dans Joseph, partie prenante de la sélection officielle 2020 du Festival de Cannes, Aurel fond son trait de plume avec celui de Bartoli. Chacun garde son identité, mais l'osmose est parfaite. Du dessin de Bartoli, le cinéaste a su capter la puissance d'expression pour en irradier son propre univers graphique. Donc Joseph, film à voir cette semaine à Arras et à Bruay-la-Bussière. Eh bien, je vous propose maintenant de passer à notre rubrique Actualité et Revue de presse, en commençant par revenir sur la fermeture annoncée de l'usine Bridgestone en mars 2021, avec à la clé 863 licenciements. L'avenir de l'Artois, cette semaine, est allé à la rencontre, je cite le journal, de l'homme de la rue. Plus précisément, le journal s'est posté au bar-tabac Le Beaulieu, situé pas très loin de l'usine. Quelques extraits des réactions recueillies auprès de celles et ceux qui fréquentent ce bar-tabac. C'est donc dans l'avenir de l'Artois. Jacques ne cache pas son amertume. Depuis tellement d'années, beaucoup d'argent est donné aux Japonais pour maintenir le site. Ce serait dommage qu'il ferme. Et puis attention, s'il ferme, la dépollution du site va durer des années. Un autre client de ce café. Daniel se montre plus tranché. Ils ont envoyé le savoir-faire et les brevets d'ici partout. Et après, basta, revers de la médaille, on ferme. Un autre client du café Beaulieu. Ça fait 10 ans qu'on parle de fermeture et ils n'ont jamais modernisé l'usine. Ils n'y tenaient pas tant que ça. Dans le même ordre d'idée, le journal évoque le passage à la télé d'un couple de Bridgestone. Je cite « Bridgestone, un couple face au Premier ministre sur France 2. Céline Katté et Jérôme Cambier travaillent tous les deux chez Bridgestone à Béthune. Elle, à la maintenance, lui, est opérateur. Ils étaient les invités de l'émission « Vous avez la parole » jeudi 24 septembre. Ils étaient face au Premier ministre, Jean Castex. Parents de 2 enfants, ils ont échangé avec l'homme politique. Il a été très à l'écoute. On a eu l'occasion de parler avec lui après l'émission. » Il a été honnête sur le fait de dire que peut-être il ne réussirait pas à garder Bridgestone. Mais il nous a indiqué qu'un repreneur était recherché ou toute autre solution pour sauvegarder un maximum d'emplois. Il a été très humain et n'a pas tenu un langage de politicien, rapporte Céline Cathèse. Cette dernière l'assure « Je reste optimiste, il n'y a rien de fait ». Fin de citation. Enfin, l'avenir de l'Artois évoque quelques réactions à la pétition mise en ligne en soutien au Bridgestone. Je cite ses réactions. Réaction de Nico. C'est peine perdue. Malheureusement, le rouleau compresseur est en marche. Réaction de Vincent. Si les salariés avaient signé l'accord de la direction l'année dernière, ils ne devraient peut-être pas signer une pétition contre la fermeture. Réaction d'Emmanuel. Si seulement ça pouvait suffire, courage à tous. Marjorie. Je pense que même avec 1 million de signatures, rien ne changera, malheureusement. Jérôme, maintenant, nous savons pertinemment que ça ne donnera rien, mais je vais signer cette pétition. Courage aux personnes et à leurs familles. Les requins n'en ont rien à foutre des gens. Et enfin, dernière réaction, celle d'Henri. Les dirigeants de Bridgestone, comme les politiques, sont responsables de cette situation. Alors au final, si l'on s'en tient à ces retours de l'avenir de l'Artois, au bistrot, sur France 2 ou sur Facebook, on peut dire que la combativité n'est pas spécialement au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va revenir sur cette information que nous avons annoncée dans notre agenda social et culturel. Ce dimanche 4 octobre se tient une marche de soutien au Bridgestone avec un départ à 9h30 au rond-point avenue George Washington face au dépôt Tadao. Cette marche est à l'initiative de l'intersyndicale de l'usine Bridgestone Béthune, la CFDT, la CGT, Sud Chimie, FO, la CFE-CGC, la CFTC et l'UNSA constituent cette intersyndicale. Le cortège doit rejoindre la mairie de Béthune. La Voix du Nord indique sur son site « Une marche de soutien, sans étiquette syndicale ou politique », précisent les organisateurs. « Nous comptons sur l'ensemble des salariés qui seront en repos pour soutenir cette marche », ajoute-t-il. « Amis, familles, enfants, soyez nombreux pour garder notre usine », appelle l'intersyndicale. Cette marche est le premier mouvement hors des murs de l'usine depuis l'annonce du projet de fermeture le 16 septembre. Et la Voix du Nord indique en sous-titre « Une marche familiale et silencieuse ». L'article précise à ce sujet « Contacté, le maire de Béthune, Olivier Gacquer, a précisé l'itinéraire que doit emprunter le défilé ce dimanche, un cheminement préparé en concertation avec les organisations syndicales. Nous partons du rond-point face au dépôt Tadao. Nous allons ensuite passer devant l'usine, de manière symbolique, mais nous n'allons pas nous arrêter. Ce n'est pas un mouvement qui appelle à la grève », explique Olivier Gacquer. Les organisateurs insistent sur le caractère familial que veut incarner cette marche, montrer que derrière chaque emploi, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Cette marche veut aussi marquer par son aspect silencieux. Depuis l'annonce du projet de fermeture, les salariés et les familles ont entendu de nombreuses personnes s'exprimer. L'idée de cette marche de dimanche est d'estimer que le silence peut être plus assourdissant que des cris. Il peut aussi exprimer une certaine dignité, comme celle dont font preuve les salariés et les organisations syndicales depuis l'annonce du projet de fermeture. Je suis d'ailleurs admiratif, confie Olivier Gacquer. Le maire de Béthune voit également dans cette marche silencieuse le moyen d'exprimer les valeurs du travail et de la solidarité qui caractérisent notre région, et de préciser « Ce n'est pas l'histoire de porter un drapeau, mais de marquer dans le calme l'attachement de notre territoire à une usine ». Fin de citation. On ne peut bien sûr que se féliciter de ce que la Voix du Nord qualifie de « premier mouvement hors des murs de l'usine » depuis l'annonce du projet de fermeture le 16 septembre. C'est une première action, une première riposte, qui a en plus le mérite d'associer les travailleuses, travailleurs et la population du territoire. Micro-Rebelle y sera et nous nous efforcerons de recueillir la parole des salariés et de leur soutien. On reste néanmoins dubitatif devant les paroles lénifiantes du maire de Béthune. Il insiste sur le fait que cette marche a été préparée avec lui. Et c'est d'une certaine manière la suite logique de ce qui s'est passé depuis le 16 septembre, annonce de la fermeture de l'usine. On se souvient en effet que la mairie de Béthune s'est empressée d'afficher une banderole de soutien et a mis en ligne une pétition. Par ailleurs, le maire de la ville s'est lui-même dit humilié par l'annonce de cette fermeture et les 863 licenciements. Cette pétition, cette banderole, ces déclarations traduisent avant tout un aveu d'échec. Les élus, les politiques, ne peuvent rien opposer à la volonté de la multinationale Bridgestone. Ils sont dans l'incapacité de faire changer d'avis le patronat et les actionnaires de Bridgestone. Et comme ils ne peuvent rien faire, ils donnent le change à coups de déclarations fracassantes, à coups de banderoles et de pétitions. Et là, dimanche 4 octobre, ils s'efforcent de rester dans la course en s'associant à l'intersyndicale pour l'organisation de la marche de solidarité. Pas sûr que les travailleuses, les travailleurs et la population soient dupes très longtemps. Aujourd'hui, on est à peine quelques semaines après l'annonce de la fermeture de l'usine qui a abasourdi tout le monde, en interne à l'usine et à l'extérieur. Il en est qui se raccrochent aux déclarations des élus, des femmes et des hommes politiques qui ont défilé à l'usine. D'autres croient encore qu'il faudrait injecter des millions pour que l'usine soit sauvée. On sait que l'argent public, qui arrose les entreprises, n'a jamais contribué à développer l'investissement ni à préserver l'emploi. Et puis, pour d'autres salariés, c'est l'espoir de partir avec la plus forte compensation possible qui compte aujourd'hui. Il n'y a rien à redire à cela. Et puis d'autres salariés, avec le soutien de la population, peuvent légitimement se poser la question d'une riposte plus ferme. C'est sans doute ce que voudraient éviter les élus, et notamment le maire de Béthune, quand ils souhaitent une marche silencieuse et un mouvement, je cite, « qui n'appelle pas à la grève ». Il n'est pas davantage certain que ce souhait continue à être exaucé au fil des semaines. Riposter aux multinationales peut bien sûr apparaître comme quelque chose hors de portée. Le patronat mène une guerre sociale sans merci à coups de milliers de licenciements. La marche peut effectivement sembler haute, mais une première étape, une première réaction, une première riposte, c'est le fait de dire non. Les patrons de bars et restaurants ont su se mobiliser pour défendre leurs intérêts. Ils ont compris que s'ils voulaient que leurs intérêts soient préservés, il leur fallait se bouger, se montrer, se mobiliser. Une première étape, donc, c'est de ne pas accepter les licenciements comme une fatalité. C'est pointer du doigt les profits des actionnaires. C'est exiger de travailler tous, travailler moins, travailler autrement. Et puis c'est s'organiser, en prenant en charge des initiatives de lutte, en décidant collectivement des modalités de ces luttes, qui peuvent passer par la grève, par des rassemblements travailleuses, travailleurs et populations, par des blocages, par des occupations d'usines, et surtout par la construction d'un rapport de force avec d'autres usines et d'autres professions. Même si tout le monde n'est pas directement concerné par les charrettes de licenciement aujourd'hui, nous sommes nombreuses et nombreux à subir un système mortifère basé sur une croissance absurde et qui profite à une minorité, la classe capitaliste. Alors, peut-être que cette marche de dimanche est une première étape, sans doute nécessaire, avant un élargissement de notre riposte. Riposter. Riposter aux attaques de la classe capitaliste, disions-nous. Le patronat et le gouvernement semblent décidés, pour leur part, à mettre toutes les chances de leur côté pour étouffer toute riposte dans l'œuf. Cette semaine, Amnesty International a ainsi publié un rapport, disponible sur leur site, un rapport intitulé « Arrêtez pour avoir manifesté. La loi comme arme de répression des manifestants et manifestantes pacifiques en France ». Ce rapport montre que l'interdiction générale des manifestations après le confinement lié à la pandémie de Covid-19 était disproportionnée, donnant lieu à des centaines d'amendes injustifiées. Ce rapport établit aussi que bien avant la pandémie, des secouristes, des journalistes et des observateurs et observatrices des droits humains figuraient parmi les personnes ciblées par des lois vagues lors des mouvements de protestation qui se sont déroulés à l'échelle nationale à partir de la fin de l'année 2018, par exemple les manifestations de Gilets jaunes. Ainsi, Marco Perolini, chercheur d'Amnesty International sur l'Europe, a pu déclarer, je cite, « Les restrictions disproportionnées des manifestations en France après le confinement s'inscrivent dans la continuité d'une situation inquiétante pour les manifestants pacifiques pris sous le feu de la police et de la justice. Lorsque des personnes sont placées en détention pour un lancer de ballon ou pour des banderoles, les conséquences sur la contestation légitime sont dévastatrices. Des milliers de personnes ont été verbalisées, interpellées, arrêtées et poursuivies en justice pour des activités pacifiques qui n'auraient pas dû être considérées comme des infractions. Les manifestations pacifiques ont été interdites dans le cadre des mesures draconiennes prises en réponse à la pandémie du Covid-19 et des centaines de manifestants ont été verbalisés. Amnesty International ajoute « Au cours des dernières années, les mouvements de protestation se sont multipliés sur tout le territoire français, du mouvement des Gilets jaunes aux manifestations appelant à une action face à l'urgence climatique, en faveur de la justice sociale ou encore contre l'impunité policière et le racisme au lendemain de l'homicide de George Floyd aux États-Unis. Entre novembre 2018 et juillet 2019, 11 203 manifestants et manifestantes du mouvement des Gilets jaunes ont été placés en garde à vue. Ces personnes ont été arrêtées et poursuivies pour des activités qui ne devraient pas constituer des infractions pénales. En 2018 et 2019, plus de 40 000 personnes, y compris des manifestants et manifestantes, ont été déclarées coupables sur la base de lois vagues. » Fin de citation. Ceci étant, malgré ces lois, malgré cette politique de répression, le mécontentement est de plus en plus profond et la détestation de Macron et de son gouvernement est de plus en plus vive. Après avoir évoqué la répression policière, on se tourne maintenant vers la justice avec ce titre dans l'Avenir de l'Artois. L'indépendance de la justice mise à mal. Et en sous-titre, dans l'avenir de l'Artois toujours, les magistrats dénoncent une enquête contre trois collègues et les propos du garde des Sceaux. Et l'article précise ensuite « Les magistrats de Béthune et de France se sont réunis jeudi 24 septembre à 13h afin de dénoncer l'atteinte à l'indépendance de la justice du fait de la saisine de l'inspection générale de la justice contre trois magistrats du parquet national financier, le PNF. Ce dernier a été créé en 2013 pour centraliser dans un même service toutes les affaires politico-financières. Il a été présenté comme être une lutte contre la corruption, explique Virginie Valton, représentante de l'Union syndicale des magistrats. Il a notamment enquêté dans l'affaire Cahuzac ou Fillon. Et aujourd'hui, il est mis en cause car ça embête les politiques. Le tout à l'approche d'un procès sensible du 23 novembre au 10 décembre, impliquant notamment Nicolas Sarkozy et son entourage. Fin de citation. On le sait, dans cette affaire Nicolas Sarkozy, les magistrats du parquet financier ont été amenés à éplucher les conversations téléphoniques, les fameuses fadettes, de plusieurs avocats, dont Éric Dupond-Moretti, qui est donc suspecté par les magistrats et qui est aujourd'hui garde des Sceaux. Il se retrouve donc aujourd'hui contre les magistrats. L'avenir de l'Artois continue à ce sujet à leur donner la parole à l'occasion de leur manifestation devant le tribunal de Béthune. Je cite « Depuis plusieurs jours déjà, l'institution judiciaire est clairement attaquée par son sommet et celui qui devrait la protéger, le garde des Sceaux. Toutes ces attaques existent en réalité pour masquer des conflits d'intérêts majeurs, non résolus à ce jour et à l'aube d'un procès éminemment sensible. » Fin de citation. Police, on l'a vu, et maintenant justice. Quand un système est en crise, le pouvoir est tenté de mettre le maximum d'atouts de son côté. Un anniversaire cette semaine. Nous étions un an, jour pour jour, après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Et à ce sujet, la Voix du Nord pouvait titrer. Un an après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, on n'oublie pas. Avec ces précisions, un an après l'incendie de l'usine rouennaise, classée Seveso O, la population reste fébrile, inquiète, et les autorités peinent à rassurer. La contestation est toujours vive. La pluie finit de rincer les traces du gigantesque incendie qui a angoissé tout le Grand Rouen le 26 septembre 2019. Un an après, plus grand-chose ne trahit ce qui s'est passé ici, à part peut-être un mur encore noirci et les traces d'hydrocarbures sur la dalle désormais dégagée de l'usine. Mais les travaux de nettoyage et de déblayage ne sont terminés que depuis quelques jours, et dans les esprits, en revanche, la marque demeure profonde. Au début du mois encore, on était incommodé par les odeurs. Monique, 78 ans, se plaint d'avoir dû laisser ses fenêtres fermées tout l'été à cause des émanations. Elle habite Petit-Quevilly, à quelques centaines de mètres du site, et elle avoue avoir sérieusement pensé à déménager, malgré son attachement à cette petite maison de rue qu'elle habite depuis plus de 20 ans. C'est ici qu'on voit l'intérieur de l'usine, en surplomb. Elle n'a rien manqué de l'incendie, ni de toutes ses suites. Fin de citation. Le 26 septembre, date anniversaire de l'incendie, une manifestation regroupait un millier de personnes, avec des slogans tels que « Lubrizol coupable, État complice ». Qu'est-ce qu'on veut ? La vérité. Pollueur-payeur, État menteur. Rappelons enfin que Lubrizol est la propriété du milliardaire Warren Buffett et que, en l'espèce, son objectif, c'est la recherche du profit maximal au détriment de tout le reste. Typiquement, ni les travailleuses et travailleurs, ni les habitantes et habitants n'ont leur mot à dire sur les choix de l'entreprise en matière de stockage des produits dangereux et, de manière plus générale, en matière de sécurité. C'est bien cette logique qu'il convient d'inverser. Ce n'est pas à une minorité d'actionnaires de posséder les entreprises. C'est aux travailleuses et travailleurs à autogérer leurs entreprises en liaison avec les usagers et les habitantes et habitants. On va terminer ce petit tour de l'actualité au travers de la presse en évoquant la pandémie sanitaire avec ce titre dans la Voix du Nord. Covid-19, deux tiers des Français ne font pas confiance au gouvernement. Et avec ces précisions, donc dans la Voix du Nord, seul un tiers des Français fait confiance au gouvernement. Selon un sondage Elab, 65% des Français disent ne pas faire confiance à nos dirigeants pour stopper la propagation du virus. C'est le niveau de confiance le plus bas enregistré depuis le début de la crise sanitaire. En outre, 69% des Français considèrent que le président Macron, le gouvernement et les autorités sanitaires ont mal anticipé le retour de l'épidémie. En France, les médecins sont inquiets, poursuit la Voix du Nord. La France devra affronter, si rien ne change, une épidémie généralisée pendant de longs mois, avec un système de santé incapable de répondre à toutes les sollicitations. A prévenu le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. La deuxième vague arrive plus vite que nous le redoutons, a déclaré Patrick Brouet. Fin de citation. Pour illustrer concrètement en quoi l'inquiétude des médecins est justifiée, on peut faire état de la situation à l'hôpital de Lens. La Voix du Nord l'évoque dans un autre article. Extrait. Au centre hospitalier de Lens, on refuse de parler de pénurie. On est en tension sur les réactifs, mais comme partout en France. De manière régulière, on envoie une partie de nos tests vers le centre hospitalier régional universitaire, le CHRU de Lille. Sur 750 prélèvements réalisés par semaine, 300 sont restés en interne à l'hôpital, dont 100 tests à résultat rapide pour les urgences. Le reste des 450 prélèvements effectués au CH de Lens sont envoyés à Lille. L'hôpital de Lens fait aussi appel ponctuellement à un laboratoire privé. Pour les grosses urgences, comme lors de la détection des deux clusters à l'hôpital, pour accélérer les résultats. Fin de citation. En matière de santé, la pandémie agit comme un révélateur photographique et montre notre système de santé tel qu'il est. Trop peu de personnel, trop peu de lits, un fonctionnement orienté vers la rentabilité. En cause, un gouvernement qui fait le choix de distribuer des millions, des milliards aux grandes entreprises au détriment du secteur social et sanitaire. Musique libre, maintenant pause musicale avec Kielokaz et ce morceau Krautenwurz.
Thank you. web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Micro-Rebelle Hebdo, comme chaque vendredi de 18h à 19h, et avec rediffusion par nos amis de Radio PFM 99.9 et en DAB+. Reportage maintenant, on accueille en studio des militants de l'association ACAD, des militants du groupe de Los Angeles de l'association ACAD, qui s'expriment donc sur les compteurs communicants et notamment, particulièrement, sur la 5G. Quelle est la réalité de cette question de la 5G à Los Angeles ? C'est un reportage, un entretien réalisé par Elsa.
Bonjour à toutes et à tous, on est dans le studio de Micro Rebelle à Lens. Je suis en compagnie de Jean-Michel et Patrick. Bonjour à tous les deux. Vous faites partie d'un collectif à Los Angeles qui est une antenne locale du collectif ACAD, qui est un collectif de lutte contre les compteurs communicants, Linky entre autres, et contre la 5G. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter le collectif dans lequel vous faites partie ?
Jean-Michel Damien, je suis lossois. Bon, je suis peut-être au point de départ de ce petit groupe hein, de l'Aussois qui s'interroge hein, et qui refuse, et dont le but est de refuser les compteurs communicants hein, pour des raisons diverses, hein, on ne va pas revenir là-dessus, hein, et pour être, j'allais dire, plus solide, hein, plus solide par rapport à Enedis hein, et aux sous-traitants, on a décidé de se regrouper à l'intérieur d'une adresse collective hein, et sur laquelle on peut faire passer des informations. Font partie de ce collectif bon, des personnes qui sont bien connues à Los. Là, je pense à Béatrice Bouquet, par exemple, hein, qui est une lossoise responsable de l'association Los Ngourma, hein, qui a rejoint le groupe tout de suite hein, et qui est au point de départ de la constitution de ce groupe.
Oui, bonjour à tous. Patrick Pestel, j'habite également Los Angeles. J'ai rejoint Jean-Michel ben, par rapport à ses idées, qui correspondent aux miennes, bien sûr.
Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce groupe ? Quoi, tu t'as voulu le rejoindre ?
C'était déjà le fait de pouvoir donner son avis, hein. Contrairement au Linky qui est imposé, on ne cherche pas à nous demander ce qu'on en pense, voilà, c'est ça, c'est obligatoire, point final, on met plein de compteurs à la poubelle qui fonctionnent, et bon, malgré tout, on doit comprendre que tout ça, c'est bien pour la planète, donc... Ça faisait quand même un peu gros. Voilà, c'est pour ça que rejoindre un groupe qui s'intéresse correctement à ces problèmes, c'était intéressant.
Alors, votre collectif, il est au point de départ, il s'intéresse à la question du Linky. Aujourd'hui, vous êtes plus axé sur la 5G, parce que c'est ce qui est d'actualité, ce qui va nous arriver très très prochainement. Est-ce que vous pouvez revenir sur... Comment vous fonctionnez, les actions que vous menez, quels sont vos objectifs ?
On n'a pas laissé tomber le Linky, hein, puisqu'on reçoit encore régulièrement des courriels hein, par l'intermédiaire de notre liste, hein, des courriels de l'Aussois hein, et de gens de personnes de la périphérie qui nous demandent quelques explications parce que on est donc ce groupe a refusé le Linky, mais Enedis hein, et les sous-traitants maintenant reviennent à la charge hein, pour essayer de faire basculer hein, toutes ces personnes qui ont refusé. Hein, ce qui fait qu'il est intéressant justement donc de rester en groupe pour ne pas se laisser désarçonner et pour ne pas avoir peur hein, de certains arguments. J'allais dire faussé, hein, de la part d'Enedis. Bon, donc on ne laisse pas tomber, tout ça pour dire qu'on ne laisse pas tomber le compteur, hein, le compteur Linky, ça y est déjà. Bon, la 5G, il y a effectivement, disons, quelques similitudes avec le Linky. Un, au niveau démocratique, il n'y a pas de débat sur l'installation de cette technologie qu'on nous impose. hein, qui sont imposées aux habitants, hein, comme disait Patrick là tout à l'heure. Hein, donc ça, c'est une première analogie. La deuxième, c'est le fait de l'utilité justement de cette technologie, hein, que l'on sera amené évidemment à payer si jamais ça se poursuit. Hein, l'utilité véritable, hein, puisque derrière la 5G, on sait qu'il y a la création de besoins. Bref, sans entrer dans le détail sur la 5G, il y a aussi l'histoire de la prolifération, hein, des ondes électromagnétiques. Avec le Linky, c'est essentiellement donc les ondes extérieures et puis aussi le courant porteur en ligne qui circule dans les câbles domestiques. Hein, et avec la 5G, ça va être, ça va empirer avec les autres fréquences, hein, qui seront utilisées. Et puis à très 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 forte densité, quoi, dans le milieu extérieur.
Alors justement sur la réalité de ce que sont les compteurs communicants et la 5G. Nous, on a reçu à Micro-Rebelle déjà plusieurs fois Pierre Rose, membre actif du collectif A4 dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Michel. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'invite les auditrices et auditeurs qui veulent plus d'informations sur vraiment les risques, les réalités de la 5G et des compteurs communicants à réécouter nos émissions sur notre site internet. Je voudrais revenir sur vous, votre collectif, ce qu'il a mené ces derniers temps pour justement... Donc, vous parliez d'une part d'informer, vous parliez de listes, c'est-à-dire peut-être revenir sur combien de personnes ça concerne. Est-ce que vous faites des réunions? Voilà, comment vous vous informez? Est-ce que vous rencontrez des gens? Et ensuite, comment vous faites pour peut-être faire circuler cette information? Et enfin, dernier point, une fois que vous avez cette information, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Est-ce qu'il y avait des actions que vous avez menées et que vous menez encore sur ces questions de Linky et de 5G?
Bon, je reviens au premier point tout à l'heure, hein, concernant les informations. On fait partie du collectif ACAD, hein, donc pour avoir des informations dans tous les domaines, hein, Linky, 5G, etc., et sur ce qui se passe dans notre secteur, on peut taper, hein, ACAD, on peut taper ACAD pour tomber sur notre site. Hein, ACAD, A2CAD, anti-compteur communicant Artois Douaisis. Bon, voilà, donc là, on peut s'informer là, sur beaucoup de choses. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Au départ, on avait contacté le maire de Lens-en-Goëlle ainsi que l'un de ses adjoints pour pouvoir parler du compteur Linky, puisque la commune était favorable, hein, à l'installation de ces compteurs. Donc voilà, on a voulu contacter les élus pour, connaître leur position, hein, et écouter leurs explications, qu'on n'a pas eu d'ailleurs, hein, sur la pose des compteurs Linky qui étaient soi-disant nécessaires dans chaque foyer. On a, au départ, on a eu plusieurs petites réunions dans des salles communales. Hein. La commune a été très ouverte de ce côté-là. Hein. Il n'y a pas de problème. On était opposants au compteur Linky par rapport à eux. Hein, mais salles communales, par exemple, ou alors les coups de téléphone donc, à la mairie pour avoir nos coordonnées, ça n'a jamais posé de problème. Donc là, pas de problème, très ouverte. Depuis ce temps, on communique essentiellement par Internet, hein, des informations qui sont envoyées sur l'ensemble de notre petite liste là, d'une centaine de personnes. Et puis, avec ce remue-ménage concernant la 5G, hein, et les prises de position d'associations, de groupes d'élus, de scientifiques, etc., hein, on a voulu interroger la commune de Lens-en-Goëlle sur sa position concernant la 5G. Hein, et on a eu une réponse du maire de Lens-en-Goëlle qui était, à moitié satisfaisante et aussi à moitié décevante. À moitié satisfaisante dans le sens où le maire Jean-François Caron nous indique qu'il n'est pas du tout favorable à la 5G, hein, et assez décevante parce que cette affirmation reste feutrée, hein, reste disons catimini, hein, et ce qui fait que parce qu'il n'y a pas de position officielle, hein, alors que il serait intéressant vu comment l'aura, hein, de la commune de Lens-en-Goëlle au moins dans le secteur, hein, que la commune de Lens-en-Goëlle se déclare, que pour la 5G, il faudrait y réfléchir un peu plus et déclarer un moratoire. Bon, ça, ils n'ont pas fait, ce qui fait qu'on a renvoyé une lettre disant que, eh bien, que fait la commune pour faire en sorte que cette position devienne, soit dite officiellement pour que ça ait de l'impact au niveau médiatique. Bon, on n'a toujours pas eu de réponse. Voilà donc ce que l'on fait actuellement.
Tu parlais effectivement de l'aura qu'a la ville de Los Angeles. Effectivement, on parle aussi de vitrine, c'est-à-dire que c'est une ville avec son maire Jean-François Caron, écologiste, qui a beaucoup fait parler d'elle. Tu me disais tout à l'heure hors micro qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont venues dans votre ville pour voir un peu les exemples qui étaient montrés, mis en avant. Ça a paru étonnant qu'un maire écologiste se positionne, en tout cas auprès de sa population, comme étant pour le Linky. Tu l'as évoqué tout à l'heure. À votre avis, pourquoi il n'y a pas une position claire de la municipalité de Los Angeles et notamment de Jean-François Caron là-dessus?
C'est difficile à répondre. Hein. Du fait qu'il n'y a pas de réponse et qu'on n'a pas eu d'explication, c'est très difficile. En ce qui concerne le compteur Linky, hein, après avoir rencontré le maire et puis l'adjoint chargé du dossier, hein, comme je disais tout à l'heure, je pense, on a eu aucune explication hein, sur le fait qu'il faille installer les compteurs Linky dans chaque logement. Hein, on ne sait pas, on n'a vraiment eu aucune explication alors qu'on était, on les a contactés, on les a autour d'une table, on était 5 ou 6 du groupe, hein, donc il n'y a pas de problème, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucune explication n'a été donnée concernant le compteur Linky. Bon, ce qui fait que c'est assez ambigu hein, comme position, effectivement, justement par rapport à ce drapeau écologiste, quoi. Hein. En ce qui concerne la 5G, on ne sait pas du tout pourquoi apparemment la municipalité ne veut pas déclarer sa position ouvertement. Il est sûr que Jean-François Caron a répondu en disant que la commune ne pouvait rien hein, contre l'installation des antennes 5G hein, pour l'instant, et c'est vrai. Hein, et c'est vrai, mais les maires, les élus, les communautés d'agglo qui prennent position pour un moratoire, hein, c'est simplement pour montrer qu'il y a, chez les habitants, chez les élus, une grosse interrogation. Et donc, ce serait intéressant que la commune de Los fasse part également de cette interrogation par rapport à la population, parce que c'est la totalité de la population qui sera impactée hein, par les ondes électromagnétiques, etc., par cette croissance, de consommation d'énergie, enfin bref, tout ce qui concerne la 5G. Or, donc là, à propos de la 5G, je pense qu'on n'a pas d'explication sur le pourquoi.
Bah, disons qu'on s'est quand même aperçu que sur beaucoup d'événements sportifs, on retrouve des publicités d'Enedis, aussi bien le long de la route du Louvre que sur le stade couvert. Donc on peut quand même facilement penser que les communes et Enedis ont des contacts réguliers au niveau financier peut-être également. Donc voilà pourquoi les communes sont peut-être un peu timoré vis-à-vis de Linky. Et ça me revient aussi en tête au niveau des panneaux photovoltaïques. Pour pouvoir revendre l'énergie à EDF, il faut être équipé d'un compteur Linky. Donc ça aussi, ça peut peut-être jouer sur le fait que la commune de Los, qui est bien équipé en panneaux, forcément des contacts très rapprochés avec Enedis pour pouvoir bénéficier de cette manne, sans savoir trop à combien ça se monte, mais bon, hein, par rapport aux investissements, est-ce que c'est vraiment rentable? Bon, ça c'est une autre question.
Oui, juste pour compléter et pour dire qu'à partir du moment où la position de la mairie n'a pas été très claire concernant justement l'utilité des compteurs Linky dans chaque foyer, hein, et qu'elle a été, qu'elle se soit déclarée tout de suite favorable aux compteurs Linky, on ne peut qu'émettre des suppositions. Les gens ne peuvent qu'émettre des suppositions. On ne peut pas les empêcher de penser, quoi, hein, d'émettre des suppositions par rapport à, disons, au rapport entre, disons, la commune et Enedis, hein, puisque on sait que, comme vient de le dire Patrick, en gros, hein, la commune a l'ambition, hein, de devenir comment autonome du point de vue de la production d'électricité, hein, donc il faut Enedis, et donc voilà, donc ce sont des suppositions, mais qui viennent du fait que il n'y a pas d'explication claire et rationnelle de la part de la commune, hein, sur le compteur Linky par exemple.
Ça, en tout cas, c'est des questionnements que vous entendez de la part d'habitantes et d'habitants de Loss.
Oui, bon, il y a même des interrogations qui vont un peu plus loin, hein, par rapport au caractère écologique. Mais enfin, bon, là, on sait très bien que chaque politique est sujet à, disons, des interrogations en ce moment. Bon, d'accord.
Je voudrais revenir sur donc là, la chronologie de vos échanges avec la municipalité. Donc là, on en est à... Il y a eu une lettre envoyée au maire qui vous a répondu. Tu le disais tout à l'heure, Jean-Michel, à moitié décevant, à moitié satisfaisant. Suite à ça, vous avez réenvoyé une lettre. Tu en as déjà parlé, qui émet un nombre de points sur lesquels vous voulez que la municipalité éclaircisse son propos, qui est donc de prendre position en fait publiquement, comme l'ont fait un bon nombre de maires, notamment écologistes. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément de Loss, et qui auraient envie de lutter à votre manière, qu'est-ce que ces personnes pourraient faire ?
Là, il faut rejoindre, enfin, il faut se, disons, prendre des renseignements, juste encore une fois, sur le collectif ACAD, hein, anti-compteur communicant Artois-Douaisis, hein, ACAD, qui recouvre, disons, un secteur assez large, hein, et qui est défini dans l'appellation. On est à l'intérieur du collectif, donc on est à même de, disons, d'appuyer, hein, d'appuyer tout groupe, hein, tout groupe, toute constitution, hein, de groupe. Et encore une fois, il vaut mieux se retrouver ensemble à plusieurs personnes, hein, pour pouvoir réfléchir et se sentir plus fort, hein, face, disons, aux événements, à Linky en particulier. Avec le collectif ACAD, on continue d'ailleurs à faire des réunions publiques, hein, et toutes les personnes qui souhaiteraient faire une réunion publique peuvent, disons, s'adresser à nous. Et ce vendredi soir, par exemple, nous sommes à Ostricourt, hein, justement, pour parler du compteur Linky, de la façon dont on peut refuser, des inconvénients, etc., hein. Et puis, une dernière chose concernant la 5G, le journaliste Nicolas Perrard, le journaliste de la revue L'Âge de Fer, hein, viendra faire 3 conférences dans la région sur justement la 5G. Hein, ce journaliste qui a écrit le bouquin 5G Mon Amour. Il viendra donc à Condé, il viendra à Le Forêt, il viendra à Lille. Et nous avons l'intention de filmer, hein, de prendre une vidéo de ces conférences, hein, ce qui fait que si les vidéos sont correctes, hein, et sont accessibles, on pourra vulgariser, hein, cette conférence, hein, et peut-être à Loss, on verra bien à ce moment-là, hein, peut-être à Loss en Goël et dans d'autres lieux si d'autres personnes décident de le faire, hein, dans le cadre de réunions publiques, par exemple. Hein.
Beaucoup de personnes pensent que c'est trop tard. Que la 5G, de toute façon, elle nous est imposée et qu'on est assez impuissante et impuissant face à ça. Vous avez fait le choix de ne pas vous laisser faire, de quand même continuer à remuer ciel et terre, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez témoigner du fait qu'une action collective apporte de toute manière toujours quelque chose ?
Oui, il est trop tard, bien sûr. Mais comment est-ce que pour les pesticides, il est trop tard ? Pour différentes choses, hein, pour l'amiante, à un certain moment, il était trop tard. Bon, là, j'allais dire, c'est une position un petit peu philosophique, hein, par rapport à tout ce qui nous est imposé. Hein, ou bien on courbe le dos et on est résigné, hein, ou bien on se dit bon, il faut quand même il ne faut pas courber les chines, hein, et il faut que je me révolte entre guillemets, ou que je réagisse. Et pour mieux réagir, il vaut mieux se retrouver en groupe. Hein. Donc c'est ça, c'est un petit peu philosophique. Hein. Et donc, plus il y aura de personnes, parce que l'histoire de la 5G, on peut dire malgré tout, les oppositions et les demandes de moratoire montent en puissance. Hein. Donc, voilà, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, même si l'État a voulu dernièrement, là, c'était hier ou avant-hier, hein, déjà revendre les fréquences aux différents opérateurs. Rien n'est fini. On continue à s'opposer et on est de plus en plus nombreux, je pense. Voilà.
Surtout que. Après la 5G, ben on peut évidemment penser qu'il y aura la 6, la 7, la 8, on peut aller comme ça très loin. Hein. Et tout ça, ça implique toujours de devoir racheter des nouveaux équipements. C'est-à-dire que tout ce qu'on a actuellement, même si ce n'est pas usé, hop, ça veut dire poubelle. Et je remets la main au porte-monnaie pour racheter, me rééquiper, être de plus en plus connecté. Et puis
pendant ce temps-là, le climat se dégrade.
Voilà. Et à force d'être connecté, ben on finira par être tous déconnectés des uns des autres, puisqu'il n'y aura plus aucun contact physique. Déjà maintenant, avec le Covid, on est déjà bien touché. Donc là, avec tous ces appareils connectés qui coûteront une petite fortune à force, hein, forcément, sans pour autant rendre des services indispensables.
Ne pas baisser les bras, se rassembler, faire collectif, hein, c'est la meilleure façon de ne pas se résigner et puis d'obtenir quelquefois certaines choses. Hein, voilà.
Donc on mettra sur notre page web de Micro Rebelle toutes les informations pour pouvoir à la fois vous contacter, vous, le groupe de l'OS, et pour ensuite obtenir des informations via le collectif ACAD.
Reportage à retrouver bien sûr sur notre site micro-rebelle.fr. Ce micro-rebelle hebdo se termine. Merci à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine dès 18h sur micro-rebelle.fr. Bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Thank you.